politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la Fabrique politique, l'émission qui détricote les institutions et les politiques publiques pour en faire de jolis manteaux pour l'hiver. Ou au moins pour comprendre ce qui s'y passe, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, un sujet brûlant, l'orientation des futurs étudiants vers l'univers merveilleux des études supérieures. Même si parmi celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, beaucoup ont déjà franchi le cap de l'orientation post-bac, je suis sûr que ça constitue un sujet de curiosité pour tout le monde et de préoccupation pour nombre de vos familles. À titre personnel, je l'avoue, c'est un dossier qui me passionne. À une époque, j'ai même rédigé un guide d'orientation dans les études supérieures. Et j'ai découvert à cette occasion un monde étrange, rempli de sigles ésotériques, de parcours du combattant, d'institutions exemplaires et d'autres à la limite de l'escroquerie. Un monde peuplé de jeunes un peu perdus et de parents inquiets et où les représentations, les réputations, les images, les croyances prédominent trop souvent sur la pertinence des choix en fonction de chacun. Tiens, déjà, le bac, ce sésame qui ouvre aux études supérieures, à quoi ça sert? Qu'en penser? Une question qui nous hante depuis des décennies.
Qu'est-ce que ça signifie le baccalauréat pour vous?
C'est un barrage en fait, parce que celui qui n'a pas le baccalauréat ne peut pas continuer ses études, du moins de façon peu intéressante, pour rentrer en faculté ou faire quelque chose d'agréable, il faut avoir le baccalauréat.
On en fait la porte, ce qui peut destiner à l'université, mais en fait ça sert à rien.
Oui. Moi, je pense surtout c'est 3-4 jours de je ne sais pas combien d'années de lycée et d'école primaire. C'est une fin et ça joue en 3-4 jours.
Voilà, c'est pas une mauvaise fin, parce qu'il faut 4 jours pour juger 10 ans d'études, évidemment, moi je suis pas d'accord.
On a l'impression de se vider de tout ce qu'on a appris en 6 ans. Quoi,
mais... Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Un examen continu des connaissances, un contrôle continu des connaissances, et pas juger toute la vie d'un élève sur seulement un jour, c'est ridicule. Tu peux très bien rater une dissertation, tu peux...
Un travail d'une année, tu dois se retrouver dans un travail de 2 jours, c'est pas possible.
Supposons que vous êtes à la place du ministre de l'Éducation nationale, que feriez-vous par exemple?
Mais je crois que je supprimerai carrément le baccalauréat.
Oui, moi aussi.
Je le remplacerai par une moyenne générale des notes de l'année ou des 2 années. De toute façon, il n'y a que la première et la terminale qui comptent. Hein.
Vous êtes d'accord?
Exactement.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Voilà, c'était des bacheliers en 1973. Retour à notre époque, et même carrément ici et maintenant, en cette fin de mois de mai où les choix se font, se défont et commencent à se conclure pour la rentrée prochaine. De la belle matière pour la fabrique politique. Qui fait quoi et comment ça se passe dans cette étape cruciale de la vie des futurs étudiants? Comment gérer cette masse immense de destinées qui se croisent? Comment éviter les biais de sélection injustes et donner sa chance équitablement à chacun? Pour y répondre, j'ai la chance d'avoir en ligne la personne qui est au cœur de la machine publique, puisqu'il est chef de projet réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, autrement dit, Monsieur Parcoursup, Jérôme Teilhard. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Alors, pour commencer, si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on démarre sur du très concret, qu'on commence par se mettre dans la peau d'un élève de terminale. Aujourd'hui, là, 31 mai, où est-ce qu'il en est dans son orientation post-bac? Où est-ce qu'il en est dans Parcoursup?
Alors, Parcoursup, la phase d'admission a commencé depuis le 15 mai.
Oui.
Et depuis le 15 mai, eh bien, les lycéens, comme les étudiants en réorientation d'ailleurs, reçoivent des mises à jour de leur dossier, donc reçoivent des propositions.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, nous tenons chaque jour un compteur, en quelque sorte, que nous publions sur le site Parcoursup de l'ensemble de la situation des lycéens et des étudiants. Et ce matin, ce sont déjà 82% des lycéens inscrits sur Parcoursup qui ont reçu une proposition d'admission.
D'accord.
Le processus va se poursuivre, puisque la phase d'admission principale va jusqu'au 19 juillet. Et finalement, pendant toute cette période, eh bien, nous proposons des propositions d'admission. Et finalement, c'est un processus très progressif. À chaque fois qu'un candidat fait un choix, donc il fait le choix qui lui correspond et qu'il renonce à une autre proposition, bah, cette proposition devient une proposition pour un autre candidat. C'est un peu le cycle de Parcoursup. Peut-être pour rassurer aussi les lycéens, pendant la semaine du baccalauréat général, c'est-à-dire entre le 17 et le 24 juin, il n'y aura pas d'envoi de proposition parce que c'est la semaine dans laquelle tous les lycéens seront concentrés pleinement sur leur dispositif.
Ça, c'est nouveau par rapport à l'année dernière, par exemple, ce moment de blocage au moment du bac?
On l'avait déjà adopté l'an passé, ce moment d'interruption et de suspension. Des délais de manière à ce que finalement ça soit le plus cette semaine-là en quelque sorte, eh bien tous les candidats peuvent se concentrer pleinement au passage du baccalauréat aux épreuves écrites et ne pas être perturbés, mais évidemment, nous maintenons l'intégralité de leurs droits, c'est-à-dire nous interrompons les propositions, mais nous suspendons les délais. Donc les délais reprendront une fois que les épreuves écrites seront terminées.
Donc ça, c'est la phase principale du 15 mai au 18 juillet. C'est quoi les étapes qu'il y a après ?
Alors, ensuite, donc là on va traiter l'essentiel des candidats, hein, entre le 15 mai et le 19 juillet. Et puis, il existe ce qu'on appelle une phase complémentaire sur Parcoursup, où figurent finalement des places qui sont dans des formations qui n'ont pas trouvé preneur, des places qui restent disponibles, et les candidats peuvent à nouveau faire des vœux sur ces places qui restent disponibles. Cette phase complémentaire, elle sera ouverte à partir du 25 juin et elle se terminera le 14 septembre.
Donc elle tuile un peu avec la première phase.
Voilà, exactement. Et ça permet à des candidats qui n'ont pas eu encore proposition de se saisir de nouvelles opportunités. Ça permet à un candidat qui avait accepté une proposition puis qui d'un coup voit une proposition qui l'intéresse davantage, finalement, de s'en saisir. Avec une règle, de toute façon, toujours simple sur Parcoursup, c'est que c'est l'étudiant qui a le dernier mot. Et puis deux, qu'on n'occupe jamais deux places sur Parcoursup. Donc quand on a accepté une proposition et finalement qu'on en reçoit une nouvelle, eh bien on doit choisir. Et si on choisit la nouvelle proposition, eh bien on rend là, finalement la première que l'on avait acceptée au système et elle est proposée à un autre candidat.
Et à quel moment on ne peut plus changer ?
Alors, on peut de toute façon tout au long de la procédure à la fois accepter définitivement sa proposition. Et ça, on peut le faire depuis le 15 mai. J'allais dire, vous aviez fait un certain nombre de vœux, puis vous avez la proposition, celle que vous préférez le plus. Eh bien, à ce moment-là, vous acceptez définitivement cette proposition. Et la perspective ensuite pour vous, c'est d'aller vous inscrire administrativement auprès de votre établissement. D'accord. Et puis, il y a des situations dans lesquelles on peut jusqu'au 19 juillet... finalement accepter une proposition mais garder des vœux qui restent en attente parce qu'on se dit que sur une proposition eh bien, elle vous intéresse peut-être davantage et vous attendez de voir si finalement au terme du processus vous allez recevoir une proposition. Ce processus-là, il se déroule jusqu'au 19 juillet et au 19 juillet eh bien, on doit faire son choix d'inscription par rapport aux propositions que l'on a.
D'accord. Là, globalement, sur cette...
Peut-être un petit mot pour rassurer aussi d'autres lycéens. Il y a des lycéens qui ont des propositions, et puis il y a des lycéens qui n'ont pas reçu de proposition. Et finalement, avec Parcoursup, on a mis en place une procédure d'accompagnement qui permet à la fois d'accompagner ceux qui, par exemple, parce que c'est arrivé dès le 15 mai, il y avait des candidats qui n'avaient fait que des vœux sur des filières sélectives, et finalement, ils ont eu des réponses négatives sur tous leurs vœux. Eh bien, ils sont accompagnés dans leur établissement pour finalement retravailler leur projet et se projeter sur la phase complémentaire, c'est-à-dire essayer de réanalyser comment ils se sont situés, pourquoi finalement ils n'ont eu que des réponses négatives, et s'ouvrir un petit peu les perspectives, travailler avec leur professeur principal, avec le proviseur, avec l'équipe par exemple des PsyEN, c'est-à-dire les conseillers d'orientation, pour formuler un nouveau projet. Et puis pour ceux qui sont sur la procédure, ont toujours des vœux en attente et au moment du baccalauréat n'ont pas de proposition d'admission, eh bien là aussi il y a une solution d'accompagnement. Ils pourront s'adresser à leur académie et demander une aide finalement de l'équipe du rectorat de manière à ce qu'on leur trouve une proposition d'admission qui est au plus près de leur projet de poursuite d'études.
Ouais, ça c'était une question importante que j'avais. Quand on a besoin d'aide, vers qui on peut se tourner ? Donc là ce que je comprends c'est qu'on peut d'abord se tourner en interne dans son établissement vers son proviseur, vers son conseiller d'orientation.
Alors,
c'est ça ?
Le professeur principal. Avec la mise en place de Parcoursup, on a créé un deuxième professeur principal sur chaque classe de terminale. C'est l'occasion d'avoir des petits groupes, c'est l'occasion aussi d'avoir des échanges plus fréquents, plus réguliers, avec un professeur principal qui est finalement à vos côtés depuis le mois de septembre.
Ça, c'est le bon réflexe, c'est de se tourner vers lui.
Le processus, il a été là pour vous accompagner à faire des vœux, et il est là aussi pour vous accompagner pendant cette période de choix. Certains ont besoin d'accompagnement parce qu'ils n'ont pas de proposition et ils s'y retrouvaient dans la procédure. Et puis d'autres ont besoin d'aide aussi parce qu'ils ont à choisir entre une ou plusieurs propositions. Et finalement, le regard du professeur principal, ce regard de cette personne qui vous a accompagné toute l'année est aussi important.
Et donc ça, c'est la première solution, se tourner vers son professeur principal. C'est le réflexe à avoir, on va dire. Et après, vous mentionniez la possibilité de se tourner vers l'académie.
Alors voilà,
vers là, c'est quoi ça, comment on fait ?
Il y a la possibilité, lorsque, à partir, donc les résultats du baccalauréat, c'est le 5 juillet, finalement, au 5 juillet, on a eu son baccalauréat, mais qu'on n'a toujours pas de proposition, là, la plateforme Parcoursup vous proposera de solliciter le recteur pour qu'il vous accompagne à trouver une proposition. C'est un accompagnement sur mesure, adapté, et l'académie vous fera des propositions, et c'est toujours le lycéen qui choisira s'il accepte ou n'accepte pas.
Donc là, les coordonnées des personnes à contacter, ce sera sur le site Parcoursup à ce moment-là, c'est ça ?
Alors, voilà, l'intérêt de Parcoursup, c'est toujours une communication, finalement, avec un échange régulier entre les candidats et la plateforme, et les services de la plateforme, que ce soit au niveau national ou dans chacun des territoires. Et chaque candidat a ce qu'on appelle une messagerie contact. D'accord. Dans son dossier, et qu'il peut interagir en permanence avec les acteurs de la plateforme qui sont là pour les accompagner.
Et un lycéen qui n'aurait pas ou peu accès à Internet, comment il fait ?
Alors, je pense que déjà dans son lycée, il a sans doute peut-être des opportunités pour avoir cet accès-là. Je rappelle aussi que la plateforme Parcoursup, elle fonctionne aussi sur application mobile.
D'accord.
Et que donc, dans l'éventail de l'ensemble des candidats, on arrive toujours à trouver une solution pour avoir accès à un processus qui vous permette d'être en contact avec la plateforme. Vous pouvez toujours aller autrement au CIO, là aussi il y a des opportunités. Je crois que il y a différentes solutions, et le fait d'avoir de disposer à la fois d'une application mobile et puis d'un mode plus classique, finalement permet de couvrir énormément de cas, de typologie de candidats. Et puis il y a aussi un numéro vert. Il y a un numéro vert qui est ouvert pour tous les candidats en semaine de 10h à 16h et qui permet aussi de poser des questions, d'interroger des acteurs qui vont vous répondre en fonction de leur connaissance de la plateforme et directement sur votre dossier. Vous pouvez y poser des questions générales, mais aussi des questions très précises par rapport à votre situation.
D'accord. Globalement, si vous deviez donner un conseil là, à un lycéen qui se sent un peu perdu ou en stress par rapport à ça, ce serait quoi ?
Moi, peut-être quand on est dans cette situation-là, c'est de se rapprocher de son professeur principal, ouais. Parce que rien ne vaut un dialogue de confiance, un dialogue de bienveillance avec la personne finalement que vous connaissez depuis le début de l'année et qui n'est pas là pour vous juger, qui est là pour vous accompagner, vous aider à faire des choix. Je pense que c'est le premier réflexe, et que c'est un réflexe important. Et on sait que les professeurs principaux sont très attachés à cet accompagnement-là de leurs élèves. L'objectif est évidemment, avant d'engager, puisque le baccalauréat est maintenant dans, on va dire, un peu moins de 3 semaines, c'est de rassurer, d'accompagner tous ces candidats qui le souhaitent.
Est-ce que c'est possible de n'avoir rien à la fin de Parcoursup, de se retrouver en septembre sans rien ?
Alors, l'an dernier, il y avait au terme de la procédure Parcoursup 955 lycéens pour lesquels nous n'avions pas réussi à trouver une proposition d'admission. Certains ont été suivis au-delà même de la fin de Parcoursup. Nous essayons évidemment qu'on ait le minimum de candidats dans cette situation. Alors après, ce sont bien des situations souvent où peut-être entre le projet initial et puis la réalité de leur profil, de leur dossier, il y avait une différence peut-être trop importante pour leur permettre de trouver une place aisément. Mais il faut le redire, sur les lycéens, c'est plus de 94% des candidats qui étaient inscrits sur la plateforme au départ qui ont trouvé des solutions. Et puis, il faut le redire aussi parce que c'est une vraie réalité, l'enseignement supérieur n'est pas obligatoire. Il y a des candidats sur la plateforme, inscrits sur la plateforme et qui trouvent des projets en dehors de Parcoursup. Ce sont des formations qui demeurent en dehors de Parcoursup. Il y en a de moins en moins, mais ce sont aussi un accès à l'emploi. Je pense à des bacheliers professionnels qui passent un diplôme qui leur permet d'accéder directement à l'emploi, qui finalement se saisissent de cette initiative. C'est un contrat de professionnalisation, c'est un engagement à travers, par exemple, le service civique. On a beaucoup de candidats qui, au cours de la procédure, finalement, ont un projet qui a évolué. Et pour vous donner une indication de ce que ça peut représenter, cette année, nous avions interrogé les candidats en disant « Avez-vous d'autres projets alternatifs ?» aux formations que vous avez sollicitées sur Parcoursup, et ils ont été 219 000 à nous indiquer qu'ils avaient un projet de poursuite d'études, d'emploi, de formation en dehors de Parcoursup.
Donc, 219 000 sur 900 000, c'est ça ?
Sur 900 000 candidats.
Et qu'est-ce oui, alors du coup, j'avais pas pensé à cette question, mais effectivement, il y a des formations qui sont encore hors Parcoursup. Vous avez un ou deux exemples pour qu'on voit
alors,
ça peut... Alors,
je vais vous donner un exemple très connu. Par exemple, les dix instituts d'études politiques. Je sais qu'il y en a un à Grenoble, en particulier. Ils ne sont pas encore sur Parcoursup. Ils rentreront sur Parcoursup l'année prochaine.
D'accord.
Il peut y avoir des écoles qui, de toute façon, n'ont pas vocation à rentrer sur Parcoursup. Mais nous avons engagé, finalement... L'ensemble des formations qui délivrent un diplôme reconnu par l'État ont vocation d'ici la phase l'an prochain à intégrer la plateforme. Je pense, cette année, nous avons fait une extension importante vis-à-vis les écoles d'infirmières, qui sont les instituts de soins, formation en soins infirmiers. Ce sont les écoles du travail social qu'on rejoint Parcoursup. Nous avons, j'allais dire, associé 1500 formations supplémentaires cette année. On en a encore 600 qui rentrent l'année prochaine.
D'accord. Merci Jérôme, on fait un premier break musical. Cette fois-ci, c'est une émission spéciale Yodelis aujourd'hui, comme ça, parce que ça me fait plaisir. Et on commence par une chanson qui s'appelle 5000 Nights.
I do believe there's a chance that not a chance, not a chance. You care to spare me a dance? Not a chance, not a chance. This waltz will not be the last. Not a chance, not a chance. I've been hoping for someone like you. 5,000 nights. Let me be the one to love you for 5,000 more.
C'est la Fabrique Politique. Nous sommes très heureux de recevoir Jérôme Teilhard, qui est chef de projet réforme de l'accès à l'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur. Jérôme, on a passé avec vous en revue le cheminement d'un futur étudiant dans Parcoursup. Pardon. J'aimerais qu'on se tourne maintenant du côté de la machine institutionnelle. Et d'abord, tout bêtement, qui c'est qui a inventé Parcoursup et pourquoi ?
Alors, il faut peut-être revenir, finalement, on a tous peut-être en mémoire une crise en fait de l'ancienne plateforme qui s'appelait Admission Post-Bac, oui. APB, de son petit nom. Et en fait, cette crise, c'était quoi ? C'était par rapport à un sujet de démographie, d'extension, parce qu'on est dans un contexte de croissance démographique du nombre d'étudiants qui accèdent à l'université, et c'est une bonne nouvelle. Finalement, dans ce contexte de croissance, une plateforme dont le mode de fonctionnement comportait des automatisations, c'est-à-dire sans prendre en compte la réalité de la demande, et en tout cas une intervention humaine, et avec des mécanismes de tirage au sort dans certaines hypothèses. Mmh. Ce dispositif est entré en quelque sorte en crise en 2017, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a souhaité de sortir de cette logique-là, a organisé une concertation avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, concertation de laquelle est sorti, en quelque sorte, un nouveau principe qui a été porté dans une loi, qui est la loi orientation et réussite des étudiants. Et finalement, le titre de cette loi, il est très parlant pour dire ce qu'est Parcoursup. Parcoursup, ça n'est pas simplement une plateforme, ça n'est qu'une plateforme. Mais c'est une plateforme dont l'objectif, c'est de créer une passerelle entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. On est dans un pays dans lequel, finalement, notre système d'enseignement supérieur s'est construit de manière très détachée par rapport à l'enseignement scolaire. Et on a créé, enfin, une quelque sorte de rupture. Mmh. L'objectif, c'est au contraire, plutôt que d'avoir des ruptures, parce qu'elles fragilisent certains, c'est d'avoir des mécanismes de continuité. Donc, dans la loi orientation-réussite, il y a le mot orientation. Et l'objectif fondamental adossé à Parcoursup, c'est d'améliorer l'accompagnement à l'orientation, avec l'idée, il ne s'agit pas de faire des vœux hiérarchisés au mois de mars, comme c'était le cas auparavant, sans connaître les formations. Il s'agit de faire des choix de formation pour lesquels on est motivé. Deuxième élément, c'est la réussite. Parce que l'objectif de Parcoursup, si faire Parcoursup est créé, c'est pour remédier finalement à un échec patent de notre société, hein, qui est l'échec en licence. Et avec des situations dans lesquelles 60% des étudiants peuvent échouer dans la première année.
En moyenne, c'est 60%, quelles que soient les filières.
Voilà. Et je pense que c'est plus de la moitié des étudiants qui n'arrivent pas à avoir leur licence dans 3 ans.
Ah, d'accord.
Et qui, du coup, vont durer. Et évidemment, dans cet échec en première année, il y a aussi cet échec est très discriminant. Parce que certains n'ont sans doute pas les moyens de poursuivre des études plus longtemps. Et puis, il y a parfois cet échec-là, il est lié, on l'a constaté, à une mauvaise orientation. Mauvaise orientation qui était liée à un défaut de connaissance de l'offre de formation. C'est évidemment un enjeu fondamental pour nous tous. La plateforme fait le maximum pour apporter de l'information. Il faut en finir avec cette inégalité de l'accès à l'information où certains ont les codes et leur permettent de finalement de se débrouiller dans les méandres de l'accès à l'enseignement supérieur et d'autres n'ont pas les codes et finalement échouent sur une formation qu'ils n'ont pas choisie, échouent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la formation qui a leur intérêt parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire. Je crois que c'est ça la volonté de Parcoursup. C'est évidemment une mission très difficile, mais c'est d'organiser autour de la plateforme à la fois un dispositif d'accompagnement dans les lycées et en même temps aussi faire bouger l'université, faire en sorte qu'on ait des parcours peut-être plus personnalisés qui permettent d'apporter un accompagnement à ceux qui en ont besoin pour réussir. Finalement, la plateforme, elle est là, elle est un messager, un passage entre deux univers très différents, mais qu'il s'agit de rapprocher parce qu'on ne peut plus être finalement aujourd'hui, compte tenu de l'échec qu'on a connu en licence, on ne peut plus être dans cette situation où on découvre l'université qu'au moment où on y accède. Il faut qu'on ait cette information en amont, il faut qu'on s'y prépare, et sans doute qu'en s'y préparant avec plus de temps, avec plus d'accompagnement, eh bien, on arrivera aussi à déstresser ce processus d'accès à l'enseignement supérieur.
D'accord. Juste pour décrypter un peu la machine, là, Parcoursup, qui c'est qui travaille dessus? Ça représente combien de personnes au ministère? Globalement, c'est une grosse équipe, c'est quoi?
Alors non, c'est pas des gros effectifs. Je dirais que c'est une cinquantaine de personnes au sein du ministère, si je prends très très large. Et puis c'est des personnes dans les académies.
Mais c'est ça, sur le terrain, il y a des relais, c'est ça?
Comment ?
Il y a des relais sur le terrain, c'est ça que...
Exactement. Dans chaque académie, il y a des spécialistes de Parcoursup qui suivent la procédure Parcoursup, qui accompagnent les proviseurs, accompagnent les professeurs principaux, accompagnent les conseillers d'orientation dans la connaissance. Et puis, à Paris, il y a une plus petite équipe, finalement, qui organise à la fois ce qu'est la logistique du système, et puis qui, en même temps, s'occupe aussi de toute la production, parce qu'il y a énormément de production d'accompagnement vers les formations, processus d'accompagnement vers les lycéens et leurs familles, processus d'accompagnement vers les proviseurs, avec la production de documents, la production de tutos, la production d'infographies, parce que notre objectif, c'est au maximum d'expliquer la procédure de manière à ce qu'elle soit la mieux comprise possible et qu'elle soit finalement que le lycéen, il se concentre sur les choix qu'il a à faire et pas sur le processus.
Donc c'est-à-dire que dans l'équipe de la cinquantaine de personnes, il y a à la fois, on va dire, on imagine des informaticiens, enfin des spécialistes qui font tourner
c'est ça.
Et
ça,
à la fois des communicants.
C'est vraiment la vision large, y compris quand je prends beaucoup d'acteurs en académie. Ce sont des profils d'ingénieurs, des profils d'informaticiens, mais ce sont aussi des profils de spécialistes de cette interaction, de la communication au sens production d'informations, comment on produit cette information, comment on la diffuse, comment on l'organise, et puis des spécialistes aussi de l'accompagnement des formations, parce que quand on travaille sur Parcoursup, on est en permanence dans cet échange entre deux acteurs. D'un côté, les candidats, c'est les lycéens, les étudiants, mais de l'autre côté aussi, les formations. Ce sont 14 500 formations qui sont nos interlocuteurs au quotidien et pour lesquelles nous les embarquons en quelque sorte dans une même aventure, qui est l'aventure avec un calendrier unique et avec des processus de réponse finalement interdépendants et qui vont permettre aux candidats de choisir. Je pense que ce qu'on a voulu faire sur Parcoursup, c'est un grand changement par rapport à ce qui se passait avant. La procédure précédente, c'était une procédure dans laquelle les formations affectaient des élèves. La procédure de Parcoursup, c'est une procédure dans laquelle les candidats choisissent leur formation. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça remet le candidat et l'étudiant au centre. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Mais ça lui renvoie, lui, comment on améliore l'information pour lui permettre de faire des choix. Parce qu'à la fin, s'orienter, c'est choisir. C'est renoncer, mais c'est choisir ce que l'on souhaite. Et j'allais dire que le meilleur conseil, c'est ce travail sur qu'est-ce que l'on souhaite faire. Je sais que c'est difficile, on l'a tous connu, vous et moi, ce choix à faire, mais finalement, la plateforme, elle doit être transparente vis-à-vis de ses choix. Et le plus important, c'est le travail sur son projet, qu'est-ce que l'on souhaite faire.
Vous, votre rôle en particulier à vous dans l'histoire, comment vous le définiriez ?
Le rôle, c'est un assembleur, ouais. Coordonnateur et assembleur finalement des équipes, de l'ensemble des équipes qui travaillent sur Parcoursup, au service des formations, au service de la relation avec toutes les équipes qui travaillent dans les académies, dans les établissements. Voilà, c'est d'être à l'écoute aussi, parce que j'allais dire la parole des lycéens, la parole des familles, la parole des étudiants, elle est aussi importante. Elle est parfois critique, hein, il faut le dire, je l'accepte, ça fait partie du travail, mais aussi derrière, parfois, il y a aussi des vrais sujets qui nous font évoluer. Il y a toujours une place pour écouter aussi la parole des lycéens, des étudiants. Nous, on fait en permanence de l'écoute usagée. On avait un panel d'usagers qu'on a suivi, à qui on propose, voilà quel type de message on veut diffuser, est-ce que vous les comprenez, est-ce que vous souhaitez qu'on les modifie. C'est pas un travail, il n'y a pas de perfection absolue, hein, mais il y a un travail permanent pour essayer d'améliorer cette relation à l'usager, parce qu'on est là pour lui, en quelque sorte.
Et est-ce que vous avez, je ne veux pas rentrer dans des choses confidentielles, mais est-ce que vous avez des interventions directes de la ministre ou des ministres ? Est-ce que vous sentez qu'au sein du gouvernement, c'est un sujet sensible et du coup, vous avez, on va dire, la sphère politique qui intervient dans cette histoire ?
Moi, je m'analyserai pas comme ça. C'est évidemment que c'est un sujet politique parce que c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que 900 000 candidats, ça veut dire toute une génération qui, à un moment donné, passe par Parcoursup. Évidemment que c'est un sujet très sensible, mais je crois qu'il y a, avec la procédure, tout un ensemble de principes, de règles. Évidemment, nous sommes là pour accompagner des candidats et on a des interventions mais qui sont celles des députés, mais elles s'inscrivent dans le cadre du traitement de la procédure normale. Et je rappelle que nous avons mis en place un accompagnement, et cet accompagnement-là, il permet précisément de répondre à ces situations, parce que plutôt que de laisser des gens seuls, finalement, ben, notre travail, c'est d'arriver à les capter pour finalement répondre à leur situation. Je dirais que les plus importantes sollicitations, c'est aussi les réseaux sociaux, et que ça correspond aussi à un mode de communication privilégié des lycéens.
Non, c'était pour voir un peu dans quelle ambiance vous travaillez, si votre téléphone explosait chaque jour de 350 000 sollicitations diverses et variées, ou si vous aviez quand même le moyen de garder une forme de sérénité. Parce qu'on se met à votre place et on...
J'allais dire, les deux sont pas incompatibles. Le premier cas est forcément le cas, ouais. J'allais dire, surtout à partir du 15 mai, de la phase d'admission. Voilà, c'est chaud. Une période qui est très intense. Très mobilisatrice pour les services, et je profite aussi de votre antenne pour dire à quel point il y a énormément d'équipes et de gens engagés, profondément engagés au service des étudiants, des lycéens, et que voilà, c'est des gens qui ont vraiment le sens du service public au corps, chevillé au corps, et qui le mènent en œuvre tous les jours. Et puis, il y a aussi des sollicitations nombreuses des lycéens auxquelles nous essayons de répondre. Il y a une équipe aussi réseaux sociaux pour répondre au maximum à ces demandes. Hein. Parce que notre objectif, c'est de répondre au mieux aux demandes. Il n'y a pas de candidat qui doit rester finalement sans réponse, sans explication. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple, mais c'est l'effort dans lequel on s'est engagé et auquel on s'attache.
Merci Jérôme, c'est l'heure d'un nouveau morceau de musique. On vous retrouve juste après. Donc c'est toujours Yodelis aujourd'hui. Cette fois, la chanson s'appelle « Breathe In ».
drain the strain on the ground. Breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et c'est la Fabrique Politique avec notre sujet du jour, l'orientation post-bac, et notre invité Jérôme Teilhard, le monsieur Parcoursup du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors Jérôme, on a décrypté le fonctionnement de Parcoursup Et j'aimerais ouvrir un peu les perspectives sur les questions d'orientation qu'on a déjà abordées au fil de l'eau. D'abord, pourquoi est-ce que c'est devenu si complexe aujourd'hui de garantir à chaque bachelier une place adaptée dans l'enseignement supérieur ? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais effectivement, il y a probablement une problématique démographique. Il y a probablement beaucoup plus de bacheliers aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que c'est aussi d'un point de vue plus qualitatif parce que les demandes, les exigences sont différentes ?
Alors, il y a aussi, au-delà même du nombre, il y a une proportion plus importante de lycéens qui souhaitent aller vers l'enseignement supérieur. C'est un mouvement général, hein, qui, je vais dire, indépendamment de la plateforme, il y a plus d'aspirations à s'élever, finalement, en termes de diplôme. La deuxième chose, c'est qu'aussi, on a un environnement de l'enseignement supérieur qui n'est pas toujours simple à appréhender. Et finalement, là, si je prends la situation d'un lycéen aujourd'hui, il y a 3 filières de baccalauréat. Par contre, derrière, il y a 14 500 formations. Et finalement, pendant trop longtemps, on n'a pas été, comment dire, accompagné pour absorber et décoder finalement cet environnement de formation. Et je crois que c'est un sujet qui est à la fois très 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 prégnant et très ressenti par les lycéens d'avoir des difficultés finalement à appréhender. Donc nous, il faut être beaucoup plus transparent. Et puis, j'allais dire, on se soucie, parce que c'est ça aussi la réalité, on se soucie de ne pas finalement vous proposer des places juste pour avoir une place. Il faut que ça soit une place qui corresponde à vos choix. Et c'est là finalement parfois la difficulté. On a des formations qui connaissent des taux de pression extrêmement fortes. Je pense à par exemple, les licences de droit à Paris 1, à Paris 2. C'est souvent aussi une question de répartition. On peut avoir aussi des effets, j'allais dire, non pas de mode, mais de tendance profonde, par exemple. L'intérêt pour les BTS, l'intérêt pour les filières courtes d'une manière générale, BTS, IUT, il y a beaucoup plus de pression pour ce type de formation-là. Et d'accord, l'adaptation de l'offre de formation, elle se fait pas de manière instantanée. Évidemment, nous avons créé des places supplémentaires, des places en IUT. Je pense que cette année, c'était 1000 places en Ile-de-France parce qu'il y avait un vrai déficit. Mais on est aussi à l'écoute de ces tendances. Et Parcoursup, c'est aussi un révélateur. Révélateur des tendances, de celles qui sont les demandes. Donc les demandes évoluent, le nombre de candidats est plus important et l'offre de formation a besoin d'être encore davantage rendue transparente et décryptée pour les candidats.
Et sur la question épineuse de la sélection à l'entrée de l'université, finalement, est-ce que vous pouvez nous dire, on en est où aujourd'hui ? Y a-t-il de la sélection à l'entrée en université ? Comment ça marche, ça ?
Alors, je pense que le processus de Parcoursup est un processus qui est fondé sur un examen de dossier.
D'accord.
Examen de dossier qui concerne l'ensemble des filières, que ce soit les universités ou les filières sélectives, hein, les BTS, les classes préparatoires. Et cet examen de dossier, il n'est pas dans une logique de sélection, au sens où priver les uns de rentrer dans une formation. Il se fait en fonction évidemment des capacités d'accueil. Et je vous redis, l'an dernier, c'était 30 000 places supplémentaires qui ont été créées, précisément pour permettre d'accompagner chacun vers l'accès à l'enseignement supérieur. Il reste des formations dans lesquelles on ne peut pas toujours accueillir tout le monde. Et il y a des filières qui sont sélectives. Un peu plus de la moitié des formations qui sont sur Parcoursup sont des filières sélectives, parfois très sélectives. Les grandes classes préparatoires parisiennes sont très sélectives, sans doute. Mais moi, je voudrais redire aussi, parce que on parle souvent de la sélection et
surtout à l'université,
de critique. Mais il faut aussi dire que notre enjeu, et à travers Parcoursup, c'est la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Parce que l'objectif, il est aussi favoriser des lycéens d'origine modeste pour qu'ils accèdent à des formations auxquelles, finalement, le mécanisme d'autocensure leur a interdit de penser ou de rêver. Il s'agit aussi d'encourager, de donner des priorités d'accès pour les bacheliers professionnels vers les BTS, pour les bacheliers technologiques vers les IUT, parce que ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Donc c'est ça, c'est un mouvement de transformation. Avec Parcoursup, on se crée des leviers de pilotage de manière à ce qu'on aille vers la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et que chacun ait la place dans la formation dans laquelle il est mieux à même de réussir. On a beaucoup parlé des attendus, des prérequis, disaient certains, mais ce sont les attendus, qu'est-ce que c'est au fond ? Ce sont les compétences et les connaissances qui sont nécessaires pour réussir dans une formation. Et cet effort de transparence, il est important de manière à ce que, finalement, chaque candidat sache là où il va faire un vœu, comprenne finalement les enjeux qui sont ceux de cette formation. Et chaque année, nous essayons d'améliorer le dispositif. Moi, je pense cette année, nous avons par exemple imposé dans chaque formation l'existence d'un référent handicap. parce qu'il faut pouvoir accompagner des familles, répondre à des interrogations qui sont celles de lycéens en situation de handicap et qui s'angoissent peut-être encore plus que d'autres.
Mais ça, ça n'existait pas avant.
Accès à l'enseignement supérieur.
Ça n'existait pas avant, il n'y avait pas de...
Ça n'existait pas. Okay. De la même manière, on a essayé cette année, c'est une première étape, et sans doute cette idée elle doit être creusée, et j'espère que l'Université de Grenoble sera aussi très allante sur ce sujet, parce que c'est intéressant, c'est comment des étudiants, finalement, au sein de l'université, des étudiants deviennent des ambassadeurs pour répondre à des interrogations de lycéens sur c'est quoi la vie étudiante. Il y a beaucoup de lycéens qui s'interrogent, qui ont besoin d'avoir la parole des experts, des professionnels, des formations, mais qui ont besoin d'avoir un autre type de parole qui les rassure, qui leur dit la réalité de la vie dans cette formation, du travail que l'on y fait. On a essayé cette année, on a engagé toutes les universités, les grandes écoles, à avoir finalement ce dispositif d'ambassadeur étudiant, de manière à accompagner davantage les lycéens, et je crois que nous devrons encore plus le développer, parce que finalement, c'est ça qu'attendent des personnes. Parcoursup, c'est parfois, on a l'impression de décrire comme une plateforme qui serait froide et purement informatique. La réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humains derrière. C'est vraiment l'objectif de la loi, de l'humain dans les lycées pour accompagner, l'humain aussi dans les universités pour répondre aux questions. Et on doit creuser ce sillon, finalement, de cette relation entre les lycéens et puis d'anciens lycéens qui sont passés de l'autre côté et qui sont sans doute de bons conseils pour nos candidats.
Et effectivement, hein, ça, cette question des difficultés en France, on voit des enquêtes internationales qui le montrent, à sortir des déterminismes sociaux quand on parle d'accès aux études supérieures, de forme de reproduction des élites, ça on le constate. Donc je vois bien comment on se positionne Parcoursup dans cette histoire. Vous, en tant qu'expert, vous diriez que les leviers, ils sont où? Et puis ça commence quand?
Alors je dirais que ça commence tôt. Parce que finalement l'autocensure elle-même, elle commence très tôt. Et sans doute, il y a des dispositifs qui se sont créés au fur et à mesure d'années, des cordées de la réussite, je pense notamment à des expériences qui ont été menées à Lille, dans les IEP, pour, y compris dès le collège, commencer finalement à donner le goût à l'enseignement supérieur, décrypter, décoder, supprimer des préjugés, de l'accès des uns et des autres, finalement arriver à mieux faire connaître. Et je dirais que Parcoursup a créé, je pense que si je prends cet exemple-là, ce que nous faisons pour les lycéens qui sont boursiers, c'est nous mettons en quelque sorte un taux minimum de boursiers qui doivent être présents dans les formations. C'est un levier de manière à finalement un petit peu contraindre le système pour qu'on donne une vraie priorité à ces lycéens boursiers. Mais ça ne suffit pas. Ça ne sera... C'est déjà utile, ça a fait progresser l'an dernier, c'est plus 21% de boursiers qui accèdent à l'enseignement supérieur, mais la vraie réussite, c'est quand finalement ce dispositif qui est sur Parcoursup, il s'adosse complètement avec un travail finalement porté par les enseignants, parce que ce sont eux pour améliorer la visibilité sur l'enseignement supérieur et soutenir finalement des candidats d'origine modeste qui n'osent pas. Avec Parcoursup, il faut oser. Il faut oser parce que chaque vœu est indépendant et donc on peut faire un vœu dans une classe préparatoire, on peut faire un vœu dans une université. Ce qui compte, c'est ce que vous avez envie de faire. Mais on a sans doute besoin, et il faut l'accompagner encore dans les années qui viennent, de manière à ce qu'on accompagne un maximum de lycéens pour déconstruire les stéréotypes et bien dire à chacun que à la fois la plateforme et l'accompagnement mis en place doit permettre d'aller plus loin dans cet effort de démocratisation. Il n'y a pas de secret, s'il n'y a pas d'action volontariste, la situation ne bougera pas. La situation a déjà bougé sur Parcoursup, cette année on est encore plus ambitieux, et on espère que ça portera des résultats, et je pense que ça donne des signaux aussi visibles dans les familles. Je vais prendre aussi un autre exemple très symbolique, hein. Cette année, nous avons supprimé la séparation qui existait entre les académies de Versailles et de Créteil. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule zone en Ile-de-France, quel que soit son...
Parce que c'était quelque chose qui était discriminant. Là, du point de vue grenoblois, on ne voit pas forcément ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il y avait une sorte de discrimination géographique en fonction de là où on habitait en Ile-de-France.
Ce n'était pas une discrimination, c'était une priorité accordée à chaque candidat de son académie. D'accord. C'est la loi aussi qui fixait ce principe-là. Ouais. Et finalement, ce qu'on a souhaité faire en Ile-de-France, pour pas que le périphérique soit... finalement une séparation entre les candidats dans un vaste territoire dans lequel il y a beaucoup de mobilité. C'est de favoriser et d'encourager cette mobilité-là, de manière à ce que, finalement, un candidat qui habite à Créteil, qui habite dans le département de Seine-Saint-Denis, eh bien, lui aussi puisse accéder dans les mêmes conditions, s'il le souhaite, et puisse faire des vœux dans les formations parisiennes et être considéré que, de la même manière qu'un candidat parisien. Ça vaut aussi pour le candidat parisien qui souhaite faire des études dans une autre université qui se cède de la couronne parisienne.
D'accord.
Mais je redis aussi, nous essayons d'encourager la mobilité. Cette année, nous avons mis en place à destination des lycéens boursiers, une aide de 500 euros pour encourager tous ceux qui font un choix de mobilité en dehors de leur académie. Il y a souvent besoin d'un coup de pouce et on le sait quand on fait les études de l'INSEE le montrent, ceux qui ont le plus de difficultés et ceux pour lesquels il y a la plus grande résistance à la mobilité, ce sont ces lycéens boursiers, c'est pour ça, ce sont eux qu'on va accompagner en priorité.
Ok, une dernière question du coup, juste pour creuser un point, c'est sur cette question d'orientation. Alors là, je remonte plutôt collège-lycée. C'est vrai qu'il y a toujours eu des questionnements en la matière. Là, il y a des réformes en perspective, il y a des moyens qui vont être mis
alors,
là-dessus.
Il y a eu deux choses. Premier élément de fond, c'est qu'on a créé un deuxième professeur principal.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais.
Dans chaque lycée. Je rappelle aussi qu'avec la réforme du lycée, il y a 54 heures dédiées à l'orientation.
D'accord.
Désormais au lycée. Ça fait des années, hein, les acteurs de l'orientation, les spécialistes de ce sujet, on attendait en quelque sorte finalement ce temps dédié à l'orientation, pour que ça ne soit pas simplement toujours la cinquième roue du carrosse, mais que ça soit vraiment un sujet qui est traité. Et ces 54 heures dans l'année dédiées à l'orientation, c'est l'occasion de travailler sur son projet.
D'accord.
Il rappelle aussi qu'il y a une implication plus forte des régions, désormais, qui vont être là aussi en accompagnement des établissements scolaires pour apporter de l'information, en accompagnement des académies également qui travaillent depuis longtemps sur ce sujet. Et puis nous avons, avec le programme des investissements d'avenir, essayé de stimuler la réflexion, l'innovation au niveau local sur ces processus d'articulation entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Donc, ça provoque, évidemment, tout l'ensemble de ces réformes doivent être, on doit en garantir la cohérence pour leur donner une bonne visibilité à l'ensemble des familles, des candidats. Et en même temps, c'est un moment où on voit que Parcoursup y contribue, ça génère de nouvelles questions et ces nouvelles questions, on doit y apporter des réponses pour qu'on passe d'une situation dans laquelle il y avait très peu d'accompagnement à l'orientation et finalement chacun se retrouvait face à lui-même, ou alors d'autres avaient des avantages parce que leur milieu d'origine leur donnait accès à de nouvelles informations, et l'objectif c'est bien d'avoir une information partagée et accessible à tous. C'est un vrai défi, hein. Ça se fait pas comme ça d'un coup de doigt, d'un coup de main, mais il faut arriver à cet objectif-là, décrisper ce processus d'accès à l'enseignement supérieur en apportant, en luttant contre l'inégalité d'accès à l'information, en luttant contre les préjugés, en luttant contre l'autocensure, qui est très forte aussi chez les lycéens. Parcoursup ne peut pas, c'est pas de miracle, mais Parcoursup est un levier qui permet aussi d'accompagner les réformes qui sont faites plus en amont dans le système scolaire.
Eh ben, merci beaucoup Jérôme Taillard, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, qu'on va finir cet entretien. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio Campus.
Un grand merci à tous les auditeurs aussi.
Et puis pour nous, justement, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Et en attendant, c'est toujours Yodelis aujourd'hui avec une chanson qui s'appelle Insanity.
sun had my respect, the sea had my love. One more for the road, two for the sake of it, three is a wasted crown. I'll drink to being the fool. For you and me, five, am I still alive? Six o'clock time to weep. I'll drink to being the creep.
C'est toujours la Fabrique politique. Aujourd'hui, on parlait d'orientation post-bac. Vous êtes sur Radio Campus 90.8 et c'est la chronique pendant ce temps à Veracruz. Alors aujourd'hui, je vous ai trouvé un article d'un média français, Libé, mais qui parle du Brésil et qui s'appelle « Brésil, les universités sonnent l'heure de la résistance à Bolsonaro ». C'est un article de Chantal Reyes du 16 mai 2019. On la disait sonnée, tétanisée par la peur de l'extrême droite autoritaire qui gouverne le Brésil depuis janvier avec Jair Bolsonaro. Mais voilà, la résistance. Et sa démonstration de force a pris de court jusque l'opposition, c'est-à-dire essentiellement le parti des travailleurs qui a gouverné le pays entre 2003 et 2016 avec Lula puis Dilma Rousseff, largement débordé par la rue. Mercredi 15 mai, des dizaines voire des centaines de milliers de manifestants, plus d'un million selon les organisations étudiantes, se sont mobilisés à l'appel des syndicats contre le gel de 5% du budget de l'éducation publique. Un mouvement social qui a touché au moins 170 villes dans tout le pays. Chaque année, les budgets concernant l'éducation ou d'autres domaines sont gelés pour aligner la dépense publique sur les prévisions de recettes. Avec l'extrême droite, la nouveauté, c'est qu'elle s'en félicite, observe un ancien ministre de l'éducation, Cid Gomes, cité par le journal O Estado de Sao Paulo. La mesure frappe l'école, mais surtout les universités publiques, qui se voient privées de 30% de leurs subventions. Certaines n'ont même plus de quoi payer leurs factures d'électricité. Le ministre de l'éducation de Bolsonaro, qui s'appelle Abraham Weintraub, un homme venu de la finance, a mis en cause le délabrement des comptes publics alors que les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Bia, une manifestante croisée pendant la mobilisation à Sao Paulo, plus grande ville du pays, résume le sentiment général. « Personne n'est dupe », lâche cette étudiante en histoire. « Il aurait pu économiser ailleurs ». Pour beaucoup, les coupes budgétaires sonnent comme une revanche contre ces foyers de gauche que sont les universités publiques. Dans un premier temps, Weintraub, le ministre, avait de fait menacé de trancher dans les budgets des établissements qui feraient du chahut. Comme par exemple, a-t-il expliqué, recevoir des militants sans terre ou des gens nus sur les campus.
L'éducation est un terrain privilégié de la guerre que mène la droite radicale contre un supposé marxisme culturel. Bolsonaro accuse les étudiants d'endoctriner les élèves, encourageant même ces derniers à les filmer. André Luis, prof de géo, lâche un long rire. On arrive à peine à leur faire apprendre quelque chose, alors de là à les endoctriner, si c'était vrai, Bolsonaro n'aurait pas été élu. Lucas, 19 ans, est vêtu du maillot national jaune et vert, la tenue de combat de la droite. Il jure pourtant ne pas avoir voté Bolsonaro. Son cousin est l'un des chercheurs qui ont perdu leur bourse de master ou de doctorat en sciences humaines dans la foulée des coupes budgétaires. Un thème qui a mobilisé au-delà de la gauche, reconnaît le très droitier mouvement du Brésil libre, allié au président. Ça m'a trop...
Attends, je...
C'est clair. Où j'en suis là ? J'y vais. Ouais. Son cousin est l'un des chercheurs qui ont perdu leur bourse de master ou de doctorat en sciences humaines dans la foulée des coupes budgétaires. Un thème qui a mobilisé au-delà de la gauche, reconnaît le très droitier mouvement du Brésil libre, allié du président. C'est la première fois qu'un gouvernement voit dans l'éducation un ennemi à abattre, déclare à Libération Renato Janine Ribeiro, professeur de philosophie politique et ancien ministre de l'éducation de Dilma Rousseff. Pour l'extrême droite, les universités sont plus que des foyers de gauche, des antres de dépravation des mœurs. Si les minorités sexuelles s'assument, si les noirs s'affirment, si les femmes se libèrent, ce serait la faute à l'éducation et à sa très grande figure, Paolo Freire. C'est l'éducateur révolutionnaire de Recife dans le Nord-Est qui est devenu une référence internationale. Ils veulent former des charlots des temps modernes, une main-d'œuvre pour faire des tâches répétitives, sans esprit critique, sans contester les valeurs, reprend Ribeiro. Depuis Dallas, la métropole du Texas, où il devait recevoir le prix de l'homme de l'année décerné par la Chambre de commerce Brésil-États-Unis, Bolsonaro a traité les manifestants d'imbéciles manipulés par la gauche. Ça ne va faire qu'encourager la poursuite du mouvement dont l'ampleur surprenante l'affaiblit, réagit Joao Alexandre Pechanski, qui est professeur de sciences politiques à l'université Casper Libero à São Paulo. Le président est déjà confronté aux casseroles de son fils, entre parenthèses le sénateur Flavio Bolsonaro. Il est confronté aussi à une situation économique périclitante, à la rupture entre les militaires de son cabinet et le courant de son gourou Olivao de Carvalho. Il ne sait même pas négocier avec les autres pouvoirs, son gouvernement est très instable, la question qui se pose désormais est de savoir comment tout ça va finir. Voilà ce point de vue du Brésil. Je remercie encore Jérôme Teilhard d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la Fabrique politique. Je vous rappelle que les podcasts sont disponibles sur le site internet de Radio Campus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, probablement pour la dernière émission de la saison dans quelques semaines, et sans doute en partenariat avec un groupe d'étudiants de Sciences Po. À bientôt.